Bonjour à tous, vous écoutez bien la radio du pays de la Haute-Sarthe, fréquence Sillé 97.9, radio locale en milieu scolaire, mais il n'y a pas les élèves aujourd'hui, bien entendu, ce sont les vacances qui ont commencé vendredi soir dernier. Mais il y en a qui n'étaient pas en vacances encore ce week-end, puisqu'ils sont partis du côté de Nantes avec un déplacement pour aller voir le bateau Tara. Vous connaissez peut-être ce bateau qui parcourt les mers du globe, eh bien pour analyser justement l'état des mers. Et c'est un bateau unique, un bateau de scientifiques et de marins donc qui parcourent le monde. Et donc dans le cadre de la semaine verte proposée par la ville de Nantes et la région des Pays de la Loire, eh bien ce bateau était amarré sur la Loire du côté du ponton des chantiers, là où il y a aussi ce qu'on appelle la machine. Vous savez, ces endroits où il y a des grandes marionnettes. On a vu un éléphant énorme se promener au bord de la Loire. C'est un endroit magnifique. Si vous ne connaissez pas cet endroit, c'est un bel endroit à Nantes. Donc je reviens à mon sujet. Ce sujet d'info de ce midi, c'est bien sûr les jeunes reporters de la COP21. Vous savez que des jeunes des Pays de la Loire, en partenariat avec la région des Pays de la Loire, mais aussi avec le rectorat et la cité scolaire Paul Scarron, ici à Ciel-Guillaume, en partenariat également avec la radio, avec la SNRL, le syndicat national des radios libres, mais aussi la fondation Nicolas Hulot, puisque nous aurons la chance, les lycéens reporters des Pays de la Loire auront la chance d'avoir un studio au sein du stand de la fondation Nicolas Hulot. Ça sera donc au Bourget lors de la COP21, hein, donc de ce sommet mondial sur le climat que Paris et que la France accueillent donc pour cette année 2015, du 30 novembre au 12 décembre. Voilà, donc pour préparer évidemment ce grand rendez-vous où les jeunes, eh bien, vont réaliser des journaux radio tous les soirs à partir de 18h, des journaux que vous pourrez réécouter sur les différentes radios associatives françaises qui sont au nombre de à peu près 700, mais aussi des radios francophones du monde entier, hein, donc où l'on parle français. Un streaming sera lancé à toutes ces radios qui pourront récupérer ce streaming en direct ou bien le récupérer et le diffuser plus tard. Voilà, le gros challenge pour ces jeunes, eh bien, c'est de réaliser eux-mêmes un journal sur la COP21, sur la couverture de ce moment attendu par tous, moment très important pour l'avenir de la planète. Et voilà, en préparation de ça, eh bien, une équipe de jeunes, et notamment de seconde, alors de seconde ici, qui n'iront pas à la COP, mais qui s'intéressent également à l'environnement et qui commencent cette année dans le cadre de l'option radio ici à Fréquence Sillé et à la Cité Scolaire, eh bien, à suivre des cours de radio avec notamment Denise Barstow, ici, donc professeur d'anglais. Ils commencent à suivre des cours de radio, et le meilleur moyen, eh bien, d'apprendre ce métier de reporter, de journaliste, c'est d'aller sur le terrain. Et donc ils sont allés sur le terrain en compagnie d'autres jeunes qui vont eux aller donc à la COP21, donc formés là-dessus. Il y avait notamment Morgane et aussi Fabien. Justement, ce sont eux qu'on va écouter lors de cette demi-heure, puisqu'ils ont eu la chance de rencontrer deux personnes. Tout d'abord, Xavier Boujard. Il n'est pas marin, il n'est pas scientifique. D'ailleurs, il a le mal de mer. Xavier Boujard, il s'occupe de toute du côté pédagogique, éducatif, puisque dimanche, ce bateau était ouvert à tout le monde, petits et grands, mais toute l'année, en fait, il sensibilise dans les écoles, dans les centres de loisirs, eh bien, aux problèmes de la pollution dans les mers et du changement climatique et de l'impact que ce changement climatique a sur les océans. Et puis ensuite, on va entendre Marc Picheral, qu'on a rencontré. La rencontre n'était pas prévue. On l'a rencontré vraiment au sein du bateau, puisqu'on a pu, non seulement visiter le pont du bateau avec les élèves, mais également être invité à l'intérieur dans les cabines. Et c'était vraiment un moment assez intéressant et dont les élèves garderont un grand souvenir. Alors, Marc Pichral, il est ingénieur au CNRS et lui, il s'occupe bien sûr de, eh bien, d'équiper ce bateau en matériel scientifique, en matériel de relevé, avec notamment la conception donc d'un appareil qui permet justement de faire des mesures dans les océans. Voilà donc deux personnes que vous allez pouvoir entendre, interviewées par par Fabien et Morgane au cours de cette émission. Donc on va tout de suite passer à la première interview de ce midi. C'est donc Xavier Boujard. Xavier Boujard, c'est la personne qui nous a accueillis donc du côté de Nantes, où était amarré donc le bateau Tara, avec un stand, voilà, une exposition et des expositions, et aussi des visites donc sur ce bateau. Les gens pouvaient aller par groupe en fait visiter ce bateau, avec bien sûr être accompagné par l'équipage, enfin les différents membres d'équipage, puisque c'est un bateau qui peut contenir une quinzaine de personnes. Et voilà, donc je vous propose maintenant et bien d'écouter tout de suite l'interview réalisée par alors on va écouter d'abord en fait Fabien qui est donc en apprentissage au CFA de La Roche-sur-Yon et qui est tourangeau. On va donc l'écouter en train d'interviewer donc Xavier Boujard. C'est parti.
Donc bonjour monsieur Xavier Boujard, vous êtes responsable de l'action éducative de Tara. Quel est votre rôle au sein de ce groupe ?
Alors presque tout est dans le titre en fait, mais je m'occupe de toutes les actions éducatives. Alors en fait c'est très varié chez Tara, c'est-à-dire qu'on a des actions événementielles par exemple, c'est-à-dire que sur une escale on va inviter des classes, on va faire des événements, donc ça c'est la gestion de l'organisation de ces escales, mais ça peut être aussi à un moment donné créer des contenus pédagogiques, ça va être des fiches, ça va être des outils qui vont permettre de s'approprier une expédition, ça va être un travail avec les enseignants en amont pour vraiment que le contenu des fiches soit intéressant. Et puis globalement l'idée c'est d'aller chercher dans l'expédition le contenu scientifique, le contenu de l'aventure humaine et de la transmettre en fait vers les classes et vers les enfants.
Vous avez participé à toutes les expéditions qui se sont déroulées sur Tara?
Non. Alors moi, la vocation de mon boulot est pas forcément d'être en mer avec les scientifiques et ni les marins. Je suis ni marin ni scientifique, et donc vraiment ce rôle de transmission, il se passe à terre. Donc je peux ponctuellement aller sur une expédition. Celle où j'ai le plus été, c'est la Tara en Méditerranée quand on s'occupait du plastique, hein, quand on faisait la récolte de plastique, où là j'ai pu aller plus de 15 jours à bord. Mais sinon, habituellement, je ne vais pas sur les expéditions. Donc Tara Océan, l'Arctique, etc., j'y suis pas allé.
Qu'est-ce que signifie Tara?
Donc comme je le dis habituellement, c'est une histoire à trois étages. Donc le premier étage de la fusée, c'est Tara, c'est la capitale de l'île d'Irlande au Moyen-Âge. C'est une ville au centre de l'Irlande dont on peut visiter les ruines et qui était vraiment la capitale de l'Irlande. La deuxième étage de la fusée, c'est il y a un roman qui s'appelle Autant en emporte le vent, qui est un roman très célèbre dont a été tiré un film, dont l'héroïne s'appelle Scarlett O'Hara, est d'origine irlandaise et dont la famille a une propriété qui s'appelle Tara. C'est la maison familiale de cette famille. Et le troisième étage de la fusée, qui arrive vraiment au bateau, c'est que le grand-père d'Étienne Bourgois, qui est le propriétaire du bateau, appelait ses bateaux, depuis maintenant plus de 50 ans, a appelé son premier bateau Tara, parce qu'il adorait ce roman-là. Et donc ce Tara-là, c'est un Tara numéro 5, en fait. C'est le cinquième du nom, voilà.
C'est un peu le projet Tara, c'est un peu l'avènement de la vie d'Étienne, enfin du fils.
Je peux répondre. L'avènement, je pense, c'est pas le bon mot, mais c'est un projet ultra important pour lui. Lui, son travail, c'est d'être PDG de la société Agnès B. Donc, dans le quotidien, il gère vraiment la société. Par ailleurs, c'est une famille où ils sont marins. C'est une famille de marins, c'est une famille qui depuis longtemps a des bateaux, c'est une famille qui adore les milieux polaires. Et donc pour lui, c'était vraiment un projet ultra important. C'est quelqu'un qui a aussi 7 enfants, donc qui est très tournée vers les enfants, pour qui la transmission vers les enfants est quelque chose d'extrêmement important. Et donc du coup, c'est plus qu'un projet phare. Étienne, on le voit très régulièrement à bord du bateau, très régulièrement à bord. Moins souvent, mais dans nos bureaux, on le voit régulièrement, Étienne. Il est vraiment impliqué dans ce projet-là.
Ok. Pouvez-vous nous citer les différents sponsors qui ont été partenaires ?
Voilà, m'en rappeler de tous, c'est un peu difficile parce qu'on a beaucoup de partenaires. Dans ceux qui ont été, bon, d'abord on a un partenaire sponsor qui est Agnès B, puisque une grande partie du fonctionnement du bateau c'est Agnès B. Ils ne sont pas seulement propriétaires, ils participent financièrement au fonctionnement du bateau. Donc ça c'est le premier. Ensuite on a des partenaires comme la Fondation EDF aussi directement, le groupe EDF. On a Veolia qui a été partenaire mais qui ne l'est plus. On a depuis récemment un papetier suédois dont le nom est imprononçable mais que je vais quand même prononcer, qui s'appelle Billrud Korsnäs, qui est un papetier extrêmement important qui fait surtout des emballages en fait en papier. Et qui participe au fonctionnement. Et après, il y a des fonctionnements publics. D'abord parce que il y a de l'argent public, parce que les scientifiques, quand ils viennent à bord, ils restent payés par l'État. Le matériel vient des laboratoires, donc vient plutôt de l'État. Et puis on a des aides régionales. La région Bretagne a pas mal contribué. Sur la partie éducative, on peut avoir l'ADEME, on a des partenariats avec l'Éducation nationale. Voilà, donc c'est un ensemble de partenaires assez variés en fait qu'on a et qui change régulièrement en fait.
Rappelez-nous en particulier qu'est-ce que ce bateau, qu'est-ce qu'il a de particulier ce bateau ?
Alors sa première particularité en fait c'est déjà dès la conception, c'est un voilier polaire, et des voiliers polaires il n'y en a pas tant que ça en fait, hein. On n'imagine pas facilement un bateau à voile aller dans les milieux polaires. Donc il a été vraiment conçu pour ça, et il a été conçu en particulier pour une chose très particulière, c'est de pouvoir faire une dérive arctique. Alors la dérive arctique, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de se déplacer sur la banquise dans un courant de plaques de banquise qui existent entre le nord-est de la Sibérie et le Groenland. Il y a d'autres courants comme ça qui existent en Arctique, mais celui-là c'est le principal. Et il a été conçu pour faire cette aventure-là, c'est-à-dire d'arriver à coincer le bateau dans la banquise, qui se retrouve posé en fait sur une plaque de banquise et qui voyage en fait avec cette banquise au rythme de 2 km par jour à peu près, en étant porté comme s'il était porté sur un radeau. Alors c'est compliqué à imaginer comment on peut faire ça avec un bateau qui fait plus de 130 tonnes. Et en fait, il a une coque particulière avec une forme en noyau d'olive. On dit ça, c'est-à-dire elle est très plate. On peut enlever les dérives, on peut enlever les safrans ou les ce qu'on appelle le gouvernail en général. Et le bateau on met le bout du nez du bateau sur une plaque de banquise. Et puis autour, la banquise va prendre en masse. Et va entourer petit à petit le bateau et va le soulever. En fait, la forme de la coque et la résistance de la coque permettent qu'il soit soulevé et pas broyé. Et au bout du compte, il se retrouve posé, comme s'il était posé sur un radeau sur cette banquise. Et donc ça, c'est la grande particularité de ce bateau.
Voilà, un bateau que les jeunes ligériens, notamment ceux de la cité scolaire, les jeunes lycéens ligériens de la cité scolaire Paul Scarron, ont découvert, c'était dimanche, à Nantes, Tara, bateau amarré sur la Loire, et qui va se déplacer, va aller à la COP21 et sera bien sûr sur la Seine, donc en plein à Paris. Voilà, donc si vous voulez découvrir ce bateau, il est encore visible jusqu'au 23 octobre, donc du côté de Nantes. Voilà, des informations tout à fait intéressantes, et on a eu la chance bien sûr de récolter pas mal d'infos avec toute une journée consacrée donc au reportage. Je vous dirai à la fin de la diffusion de ces interviews le site internet où vous pouvez vous renseigner un peu plus précisément sur ce bateau avec ses actions. Il y a un site internet qui est dédié où il y a vraiment beaucoup de choses, des photos, des des images, des interviews, voilà, des textes, bien sûr, beaucoup de choses sont présents sur ce site. Et donc on a eu la chance de rencontrer un scientifique également, un scientifique qui a mis au point sur ce bateau Tara ce qu'ils appellent en fait la rosette. La rosette, c'est un élément en fait de mesure, ce sont des éléments de mesure que Marc Pichral a mis au point et qui donc ont permis de récolter pas mal d'informations sur l'état des océans actuellement. Donc je vous propose d'écouter Marc Pichral. C'était dans la cabine du bateau, vraiment attablé ce qu'on appelle le quart, je crois, le quart du bateau, là où on mange, où on mange ensemble. Il y a une cuisine, c'est vraiment très 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 convivial comme endroit, très très chaud. Donc je vous propose de retrouver cette interview donc qui vous est proposée par Morgane Renaud, donc Morgane qui est en première ici à la cité scolaire et qui sera donc du voyage à la COP21.
Donc bonjour Marc, vous êtes ingénieur au CNRS, donc qu'est-ce que vous avez fait pour l'expédition Tara?
Moi je suis donc, comme vous l'avez dit, ingénieur au CNRS, je m'occupe d'instrumentation scientifique pour les biologistes marins. Et j'ai été en fait responsable de la mise en œuvre de l'instrumentation scientifique à bord sur le projet Tara Océan de 2009 à 2013. Ça a consisté à, au début, voir avec les gens de Tara Expédition comment adapter le bateau, parce que Tara c'est un bateau d'expédition, c'était pas un bateau océanographique, un bateau de recherche, donc il a fallu qu'on modifie certains appareaux du bateau pour pouvoir qu'on mette un treuil, qu'on installe les équipements. Donc on a préparé ça en amont de la campagne. Et ensuite, on a préparé les équipements qui étaient adaptés à au bateau et au projet scientifique, qui était donc pour moi, ma responsabilité, c'était de faire les prélèvements et de faire les mesures environnementales, c'est-à-dire de caractérisation des masses d'eau, de caractérisation de l'environnement dans lequel vivent le plancton dont on allait étudier la biodiversité. Et donc, j'ai dans ce contexte-là, mis au point les instruments, et puis après, superviser et participer à tout ce qui était mesures à bord, échantillonnage. En binôme avec une ingénieure néo-zélandaise qui s'appelait Sarah Searson et qui donc avec qui j'ai partagé le temps à bord pendant les 4 années de l'expédition.
Pourquoi étudier le plancton ?
Le plancton aujourd'hui c'est admis, donc le plancton hein, ça va des virus jusqu'aux grandes méduses, enfin des organismes qui sont largement visibles à l'œil. Donc c'est quelque chose qui est une gamme de taille énorme. Ça comprend de l'animal, du végétal, et il est admis aujourd'hui que le plancton marin concourt à l'ordre de 50% à l'assimilation des gaz à effet de serre et donc à la régulation de notre climat sur la planète. Et donc il est fondamental de bien connaître le fonctionnement de cet écosystème qui est difficile finalement à étudier parce que l'océan c'est un milieu difficile.
Donc vous avez été une des personnes les plus présentes de l'expédition. Donc où êtes-vous allé pendant cette expédition ?
Alors, je pense que vous êtes au courant un petit peu du voyage de Tara Océan qui a commencé en Méditerranée, l'océan Indien, ensuite l'Atlantique Sud, en Antarctique. Ensuite, on allait monter en Pacifique jusqu'aux Galapagos, la Polynésie, remonter à Hawaï, repasser Panama et remonter par l'Atlantique Nord. Et puis ensuite, on est reparti en 2013 faire le tour de l'Arctique en passant par le passage du Nord-Est, puis le passage du Nord-Ouest sur 6 mois. Et sur 15 mois, je suis un peu allé partout. Non, je peux pas vous raconter, j'ai dû embarquer 15-20 fois. Donc,
quel est votre ressenti?
Alors, Tara Expédition, ça a été un projet scientifique passionnant. Hein, je pense qu'on a fait aujourd'hui, vous avez le magazine Science, c'est la consécration, c'est un peu le Graal. C'est 5 articles dans le magazine Science et les 2 dans Nature qui sont en cours de révision actuellement. C'est un peu le Graal pour toute communauté scientifique. Donc c'est avant tout, on s'est bagarré pour ça, nous comme techniciens, comme ingénieurs à bord, les marins, tout le monde qui est passé à bord, puis ensuite les gens qui ont traité les données à terre. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, c'est-à-dire que vous allez sur un bateau à voile, ça paraît magique, ça tout ça, etc. Mais c'était avant tout un travail intense et voilà. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est effectivement c'est une expérience humaine importante, vivre à 14 voire 16 par moment dans ce bateau. Dans laquelle la zone de vie c'est à peu près 80 mètres carrés, donc vous mettez un petit peu le rapport, donc pendant des semaines à bord, vous mettez un petit peu le rapport où vous vivez, dans vos appartements, vos maisons, et le nombre que vous êtes, et le nombre qu'on a été à bord dans des conditions parfois difficiles. Donc voilà, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect programme scientifique, où le Tara Océan, ça a été une grande réussite, et l'aspect humain et voyage, découverte du monde qu'a permis ce voyage.
Qu'est-ce que vous en avez retenu de cette recherche scientifique sur le plancton?
Alors, les résultats aujourd'hui sont encore... on a ces cinq articles qui sont fondamentaux dans Science, mais qui sont sur un domaine, je dirais, qui est plutôt lié à la génétique et qui ne sont pas mes domaines, moi, de prédilection, qui sont plutôt l'instrumentation scientifique, l'imagerie. Je peux avoir une réponse sur le point de vue scientifique qui n'est pas complète, parce que ce n'est pas mon expertise. Ce qui est intéressant toutefois, c'est quand même le fait que... Il semble qu'on arrive à ce qu'on appelle une saturation du nombre d'occurrences génétiques qui ont été découvertes. C'est-à-dire qu'en fait, on a par cet échantillonnage de tous les océans, on a augmenté notre connaissance à un point où on arrive à un plateau. C'est-à-dire qu'en fait, pour augmenter maintenant 10% encore plus, il faudra mettre peut-être 10 fois plus d'efforts que ce qu'on a pu faire, nous, pendant les 5 années. Donc ça, c'est quand même un achèvement et une réussite et une découverte. Enfin voilà, c'est ce qui a justifié ces papiers.
Vous avez un souvenir en particulier qui vous a plu pendant votre expédition?
Alors, ce qui est, je pense aujourd'hui, ce qui est pour moi le plus attirant, c'est le plus impressionnant, c'est les zones polaires. C'est l'atmosphère polaire, l'ambiance dans la glace, dans les. Et ça, c'est ce qu'on a vécu dans le passage, dans le Grand Nord, là, lors de Tara Arctique. Mais aussi, moi, j'ai vécu en Antarctique là, quand j'étais chef de mission en 2010, fin 2010. C'est vraiment des zones qui sont où on a le sentiment de passer un petit peu en expédition, où on se bagarre vraiment pour avoir des données, pour avoir des échantillons, parce qu'il y a la glace, parce qu'on est un tout petit bateau et on n'est vraiment rien. Par rapport à ce qui se passe. Alors, une des spécificités du projet Tara Océan par rapport à l'expédition précédente, qui était celle de Greg Venter, qui est un milliardaire américain qui avait été le premier à séquencer travailler sur le génome humain, c'est que Tara est un bateau polaire. Il était conçu pour ça. Donc, il nous a permis d'aller échantillonner aux hautes latitudes. Ce qu'aucune autre, parce que les expéditions précédentes n'avaient, du même type, n'avait pas pu faire parce qu'il n'y avait pas des équipements adaptés à ça. Et même l'expédition du Malaspina qui a eu lieu un peu pendant Tara, qui avait des objectifs un peu similaires, n'est pas allé aux hautes latitudes. Alors les hautes latitudes sont peut-être moins passionnantes en termes de diversité, quoique on n'a pas encore dépouillé les données de Polar Circle, donc de l'année 2013 du voyage. Alors que la diversité est plus importante dans les eaux chaudes en général, dans les zones. Mais on peut rien dire encore, on n'a pas dépouillé ces données. Mais vraiment la spécificité de ce voyage, c'était d'aller à toutes les latitudes. Alors, on y allait un petit peu en Antarctique, on a quand même passé pas mal de temps en Arctique. Ceci dit, quand on regarde les cartes d'échantillonnage, l'Antarctique, on n'a quasiment rien échantillonné. Parce que c'est extrêmement loin de tout continent, extrêmement loin de toute zone et les conditions sont difficiles.
Donc vous avez fait toutes ces expéditions, tous ces résultats, et maintenant, est-ce que je voudrais savoir, vous allez à la COP21?
Alors moi-même non, parce que dans toutes les équipes scientifiques, on se répartit les rôles, on se répartit les tâches, et c'est un de mes collègues qui s'appelle Lionel Guidi, qui était chef de mission à bord et qui travaille avec moi sur les données environnementales, tout ce qu'on a mesuré avec mes capteurs pendant le voyage, qui sera pour notre groupe à la COP21.
Et donc vous ferez quoi pendant ce temps? Qu'est-ce que vous allez faire?
Eh bien pendant ce temps-là, je vais pas me tourner les pouces. Pendant ce temps-là, mon boulot, moi, c'est de mettre des instruments au service des scientifiques pour qu'ils puissent faire des prélèvements, des mesures, des observations. Et je suis en train de former des gens qui vont partir avec mes instruments sur divers océans au début de l'année prochaine.
Très bien. Et vous avez un message à faire passer au grand public par rapport aux océans et aux plancton?
Ça, c'est une bonne question. je crois que ça paraît aberrant de ne pas prendre en compte le rôle fondamental qu'a l'océan et qu'a le plancton marin dans la régulation de notre climat et dans le fonctionnement de notre planète. Et donc, s'il y a un message, n'oubliez pas l'océan.
Merci Marc, je vous remercie pour cette interview.
Voilà, c'était donc Marc Pichral, donc chercheur au CNRS, qui participe aux expéditions aux expéditions de ce bateau Tara. Sachez que ces deux personnes que vous venez d'entendre là, donc Xavier Boujard et Marc Pichral, vous pourrez les réentendre donc ce soir à partir de 17h30, également ce soir à partir de 22h, et puis demain matin également à 7h. Voilà, et puis sachez qu'il y a bien sûr d'autres personnes que nous avons rencontrées. Il y a notamment Mathieu Auriot qu'on a rencontré. Mathieu Auriot, il a une double casquette en fait, hein. Il est spécialiste en biologie marine. Il est diplômé bien sûr en biologie marine. Il connaît ce domaine et donc c'est utile pour analyser et puis pour comprendre les milieux marins et puis pour ses recherches. Mais c'est également un marin confirmé puisqu'il a toujours aimé la mer, les bateaux. Mais c'est également un surfeur. On sait que les surfeurs sont des personnes qui sont très sensibles en fait à l'écologie. On a rencontré d'autres personnes aussi. Il y a eu aussi un groupe de personnes camerounaises qui étaient à Nantes pour parler du commerce équitable. Voilà, les sujets ne manquent pas. Beaucoup de personnes interrogées que vous pourrez retrouver prochainement cette semaine sur l'antenne, mais aussi sur notre site internet, hein, je vais le rappeler, www.frequence-sille.org. Et là, donc, il y aura bien sûr une consacrée à ce déplacement de dimanche à Nantes sur le bateau Tara. Puis aussi une page spéciale avec vous retrouverez bien sûr toutes ces interviews et puis les photos aussi qui vont avec, parce que le site internet permet de mettre des photos également. Voilà, voilà, c'est tout. Puis je voulais pour terminer vous dire que si vous voulez en savoir plus sur le bateau Tara, et si vous envisagez d'aller faire un petit tour à Nantes, parce que Nantes c'est une très belle ville, et aller du côté justement du ponton des chantiers là, quai des Antilles. D'ailleurs il y a le musée aussi, le musée donc de l'abolition de l'esclavage, qui est assez récent, je crois qu'il a été inauguré en 2011, qui est juste à côté, donc qui est juste à côté en fait du bateau Tara. Pas loin, il suffit de passer le pont et voilà. Et sachez que nous sommes et nous avons également fait la visite de ce musée. On peut le rappeler aux 12 millions d'Africains. Voilà, sont devenus esclaves. Ils passaient d'ailleurs par Nantes, puisque Nantes était l'un des ports européens négriers, voilà, qui passaient par Nantes et ensuite étaient convoyés donc vers les Amériques. Voilà, donc un musée aussi à voir, très intéressant et vraiment très bien fait, avec des citations, donc une histoire chronologique en fait depuis le début en fait, depuis le début de l'histoire de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Et on apprend aussi que l'esclavage moderne existe encore. Voilà, donc c'est un musée à voir. Également, en même temps que Tara, le bateau. Voilà, puis je voulais donc vous signaler le site internet où vous pouvez découvrir donc les projets de Tara. C'est http://océan au pluriel avec un S point Tara expédition, donc avec un S à expédition et tout attaché, .org. Je répète, http .océan au pluriel avec un S point Tara expédition, Tara c'est T-A-R-A expédition avec un S point org. Et puis sinon vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez Tara et Tara T-A-R-A et vous trouvez plein d'infos sur ce bateau qui heureusement nous fait prendre conscience de l'importance de ne pas polluer les océans.